terre se noie dans les abysses. Lorsque ne subsiste de la lumière qu'un bref souvenir. Et que surgit l'ombre de l'histoire, de ceux qui l'ont faite. Peut-être ont-ils oublié de désigner des gardiens de la mémoire. Malgré cet oubli, ce soir la chaîne 3 vous invite à la galerie des grands maîtres. Des ateliers de son, de rimes et de couleurs, dirigés par Nelly Men.
À la période qui, en Europe, a suivi le Moyen-Âge et qui s'affirme par un retour aux formes de l'Antiquité. La Renaissance s'inscrit dans l'histoire comme étant un grand moment qui donne lieu à des conventions esthétiques nouvelles. La Renaissance ne s'implante pas brutalement. Les penseurs, les artistes, les hommes de lettres composent avec un fond gothique. Entre le XVe et le XVIe siècle, l'architecture révèle le mieux les différences fondamentales entre les anciennes pensées et les nouvelles. Ces différences apparaissent également dans le domaine de la production artistique proprement dite, dans ceux de l'histoire, de la littérature et de la philosophie. Ce soir, la Galerie des Grands Maîtres installe ses ateliers à la chapelle Sixtine afin d'admirer l'une des plus belles œuvres de la Renaissance, les plafonds de Michel-Ange. Michelangelo Buonarroti, de son vrai nom Michelangelo di Lodovico Buonarroti, est issu d'une ancienne et noble maison des comtes de Canossa. Son père, Lodovico Buonarroti, était podestat de Chiusi et de Caprese, descendant d'une vieille famille florentine. Michel-Ange est né le 6 mars 1475 à Caprese. Peu de temps après sa naissance, son père, Lodovico, voit expirer son mandat de podestat de Caprese, où il exerçait au service du diocèse d'Arezzo. La famille quitte alors Caprese et s'installe à Settignano. Settignano est un village de tailleurs de pierre situé dans les environs de Florence, où le père de Michel-Ange, Lodovico Buonarroti, possède une ferme. La mère de Michel-Ange, Francesca del Sera, a une santé délicate. L'enfant, dès sa naissance, est confié à une nourrice. Michel-Ange n'a point le temps de connaître sa mère. À l'âge de 6 ans, en 1481, il est déjà orphelin. 4 années plus tard, son père se remarie et une nouvelle fois, la famille déménage et s'installe à Florence. Michel-Ange a 10 ans. Michel-Ange étudie la grammaire chez Francesco d'Urbino. En cachette, le jeune artiste s'exprime déjà dans les arts. À l'âge de 13 ans, Michel-Ange fréquente l'atelier Ghirlandaio. Déjà, il se familiarise avec l'art de la fresque. Un an plus tard, il entre à l'école de sculpture située dans les jardins de Laurent de Médicis qui venait de s'établir dans un somptueux palais de Florence. Laurent de Médicis prend connaissance des talents de Michel-Ange, ce jeune garçon doué pour la sculpture, la peinture et la poésie. Se charge de l'éducation esthétique de Michel-Ange. Dans les milieux artistiques, on raconte l'histoire du vieux faune de Michel-Ange, une sculpture dont le nez et la bouche sont rongés par le temps. Le faune de Michel-Ange possède toutes ses dents. À la vue de cette première tentative de l'artiste, Laurent de Médicis s'exclame. Tu devrais savoir, jeune homme, qu'il manque toujours quelques dents au vieillard. Michel-Ange ne répond pas, mais réagit en cassant une dent à son faune. Après la mort de Laurent de Médicis, l'héritier Pierre de Médicis ne comprend rien à l'art de Michel-Ange. Le jeune artiste quitte le palais et s'installe au couvent où il réalise un magnifique crucifix en bois. En 1492, deux années après la mort de Laurent de Médicis, Michel-Ange s'installe à Bologne. Sa curiosité à vouloir connaître la structure des muscles qui constituent le corps le pousse à parfaire ses connaissances dans le domaine de la dissection. En 1496, il se rend à Rome et réalise de superbes sculptures parmi lesquelles le fabuleux Bacchus. En 1501, il retourne à Florence et reçoit la commande de la statue colossale de David, qu'il taille directement dans un bloc de marbre. Il achève son David en 1504. À la même époque, il sculpte la Madone de Bruges, puis un médaillon portant la Vierge à l'enfant avec Saint Jean. Entre 1503 et 1504, il réalise la Sainte Famille, et à l'âge de 29 ans, Michel-Ange acquiert une réputation inégalable. En 1508, le pape Jules II charge Michel-Ange d'une mission historique, la décoration à fresque de la voûte de la chapelle Sixtine. L'artiste s'angoisse. Lui, qui se considère comme un sculpteur, allait pour la première fois exécuter une œuvre picturale gigantesque. La décoration de la chapelle Sixtine va durer, pour une première tranche, 4 années. À la mort du pape Jules II, le nouveau pape Léon X lui commande en 1516 la construction de la façade de l'église San Lorenzo de Florence. Faute de moyens financiers, le projet ne voit jamais le jour. Michel-Ange devient alors ingénieur. Il est nommé commissaire général des fortifications de Florence et défend la ville durant 1 an contre les Espagnols. Florence est déchue. Michel-Ange est menacé de toutes parts. Il se cache, mais ne tarde pas à être découvert. Il est emmené alors devant Alexandre de Médicis, mais il ne sera nullement sanctionné. Au contraire, il est réhabilité, car Alexandre de Médicis reconnaît ses valeurs et son intelligence. « Je punis les rebelles, mais je récompense le talent », s'écrit-il. le pape Clément VII charge Michel-Ange de peindre les deux extrémités de la chapelle Sixtine. Décoration de la chapelle Sixtine, le pape Clément VII désire voir figurer le jugement dernier d'un côté et la chute des anges de l'autre. Michel-Ange s'inspire de Dante et grâce à son étude de l'anatomie, il maîtrise de plus en plus les connaissances les plus secrètes des mouvements des muscles. Il représente dans son œuvre des attitudes variées du cœur humain. Le désespoir des réprouvés, la joie des élus. Les humeurs sont exprimées avec tellement d'énergie et de réalisme. Après 8 années de travail, le jour de Noël 1541, Michel-Ange livre le jugement dernier, une fresque d'une longueur de 17 mètres sur 13, occupant le mur d'autel de la chapelle Sixtine. En 1532, Michel-Ange se lie d'amitié avec Tommaso de Cavalieri, un jeune garçon brillant d'une grande beauté à qui Michel-Ange dédie des poèmes et des dessins. Cette amitié va durer jusqu'à la mort de l'artiste. Suscite chez l'ensemble des contemporains de Michel-Ange une profonde admiration. Le pape lui-même s'agenouille à la vue de cette œuvre remarquable. Certains, animés d'un savoir restreint et de connaissances infimes, ont trouvé à cette époque que les personnages représentés manquaient de pudeur et que les scènes immorales ne convenaient pas à cet endroit sacré. Des opposants à l'art ont alors exigé la destruction de l'œuvre. Il y avait heureusement de grands hommes qui ont approuvé la fresque, telle que l'écrivain Pietro Aretino dans sa lettre adressée à Michel-Ange disant « J'ai eu les larmes aux yeux à la vue de votre terrible et imposant jugement dernier. » En 1535, le pape Paul III nomme Michel-Ange sculpteur, peintre et architecte officiel du Vatican. Du jugement dernier, Michel-Ange est chargé de réaliser des fresques pour la chapelle Pauline. Il est désespéré, déçu et triste. Ses œuvres expriment à la fois le découragement, l'affliction et une profonde foi en Dieu. Michel-Ange y travaille lentement. La chapelle Pauline ne l'inspire pas. Il met alors 8 ans pour achever la conversion de Saint Paul et la crucifixion de Saint Pierre. Entre-temps, Michel-Ange se consacre à achever le tombeau de Jules II. Finalement terminé en 1545. En 1546, il est nommé architecte de la basilique Saint-Pierre. Pendant les 20 dernières années de sa vie, Michel-Ange réalise ses plus belles sculptures, empreintes d'une intensité émotionnelle inégalable. Aucune privation ne m'est inconnue. La frénésie avec laquelle travaillait Michel-Ange a fait de lui une légende vivante. Dans ses poèmes, il se moquait de sa douleur, car selon lui, une chair torturée purifiait l'âme. Une conception de la vie peu commune qui lui a certainement permis de surmonter grand nombre de problèmes. Mais il a dû affronter la jalousie de ses contemporains qu'il traitait avec arrogance, un caractère qui lui coûte d'ailleurs une séquelle pour toute sa vie. Un jour, Pietro Torrigiano, un artiste de l'époque, frappe Michel-Ange si violemment qu'il lui casse le nez. Quelques jours avant sa mort, Michel-Ange travaille à la réalisation d'une sculpture qui restera inachevée. Le 18 février 1564, Michel-Ange quitte ce monde, laissant derrière lui l'une des plus belles œuvres de son époque. Son ami unique reste à son chevet jusqu'à son dernier soupir. Le testament de Michel-Ange, rédigé quelque temps avant sa mort, résume le caractère et la personnalité de l'artiste. Je confie mon âme à Dieu, mon corps à la terre, mes biens à ma famille. Mais son bien, le plus précieux, a été légué à l'humanité tout entière en lui confiant l'œuvre fabuleuse des plafonds de la chapelle Sixtine. De restauration de la chapelle Sixtine. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Michel-Ange, le Vatican décide d'entreprendre la restauration de la voûte de la chapelle Sixtine. Les travaux commencent en 1980. Grâce aux écrits de Vasari, on apprend qu'en 1547, des fuites se manifestaient déjà à certains endroits du plafond. 2 années après la mort de Michel-Ange, on entreprend déjà une première restauration confiée à Domenico Carneval. En 1625, un grand nettoyage a lieu. Il fallait dépoussiérer les peintures. Beaucoup d'autres travaux ont eu lieu avant 1980. Entre 1710 et 1712, Annibale Mazzioli et ses 2 assistants vont endommager les peintures en utilisant des produits à base de vin grec. En 1762, on ravive les couleurs. En 1797, une partie se détache et une autre est endommagée suite à une explosion aux alentours. En 1825, on nettoie le jugement dernier. En 1980, les travaux sont menés par Gianluigi Colalucci, directeur du laboratoire de restauration du Vatican. Grâce aux techniques modernes, on prélève des échantillons microscopiques des pigments utilisés par Michel-Ange et de la même manière, on recompose les tons et les couleurs d'origine. Un peu trop vives pour une œuvre ancienne dont les droits du film relatant la restauration reviennent à une chaîne de télévision japonaise. Décomposition du plafond de la chapelle Sixtine. Entre 1509 et 1510, Michel-Ange réalise la famille d'Achab exterminée. Il s'agit d'un médaillon de la voûte fondé sur un passage du second livre des rois. séparation de la terre et de l'eau est réalisée en 1511. Les 9 panneaux au centre de la voûte de la chapelle sont consacrés aux 9 premiers chapitres de la Genèse. La création des astres est exécutée en 1511 et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. D'Adam, avec la représentation du Créateur qui touche presque de son index droit l'index gauche d'Adam. Il s'agit de l'image la plus célèbre et la plus fascinante de l'œuvre complète. C'est également l'image la plus citée et la plus imitée dans le monde. Steven Spielberg en a fait allusion dans plusieurs de ses productions surréalistes. Entre 1509 et 1510, la création d'Ève est réalisée. À la même époque, Michel-Ange réalise la tentation d'Ève et l'expulsion du paradis terrestre. Entre 1508 et 1509, Michel-Ange réalise le déluge, une représentation de l'arche et de la famille de Noé. David et Goliath, l'ivresse de Noé, le sacrifice de Noé, le prophète Joël, les sibylles d'Érythrée et de Delphes, les prophètes Ésaïe et Zacharie. 1511, réalisation d'une partie consacrée au prophète Jérémie, au prophète Daniel, aux sibylles de Perse et de Libye. 1510, la sibylle de Cum, c'est la plus célèbre des sibylles. Le poète latin Virgile a d'ailleurs écrit que cette sibylle annonçait la venue d'un sauveur. 1511, réalisation du prophète Jonas, le supplice d'Aman. De 1537 à 41, le jugement dernier. Des groupes d'anges et des symboles de la passion. Charon, le nocher des enfers, fait entrer les malheureux au royaume des morts et les anges annoncent le jugement dernier. La chute des réprouvés, une enveloppe charnelle dépouillée de son âme. L'apôtre, Barthélemy, quelque peu un autoportrait. La résurrection des morts, l'ascension des justes, le désespoir des réprouvés. En somme, un résumé des récits bibliques selon Michel-Ange et à la hauteur de sa croyance en sa qualité d'homme et d'artiste de tous les temps. C'était la galerie des grands maîtres. L'histoire referme ses ateliers. La peinture, la littérature, la musique continuent leur chemin côte à côte ou en parallèle. Votre galerie nocturne vous a été préparée par Samira, présentée par Nelly Men et réalisée par Sonia Yahi et Zubir avec la collaboration de Souila. Bonsoir.